On est à mi-parcours, le journal c'est vous, Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Sénat accable Alexandre Benalla et l'Élysée, les agissements du premier qui doit être poursuivi pour parjure, les dysfonctionnements de l'équipe de la présidence, le rapport de la commission d'enquête dans le détail et les reproches des députés En Marche à l'Assemblée. La banque UBS condamnée à payer 4,5 milliards d'euros pour ses démarches auprès des contribuables français qui cherchaient à échapper au fisc. Le géant suisse fait appel. Au sommaire également ce soir, les négociations chômage dans l'impasse, le gouvernement va reprendre la main. Une nouvelle profanation dans un cimetière près de Lyon. La chanteuse Ariana Grande presque au niveau des Beatles aux États-Unis. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh ben, la question qu'on a envie de poser ce soir, c'est que reste-t-il des ronds-points, Sébastien? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mouvement des Gilets jaunes a été intégralement dépossédé de son origine? Est-ce que le canal historique est enseveli sous les ultras? Est-ce que la révolution a dévoré ses enfants? 01 45 24 7000.
France Inter. 6 mois de travail, 40 personnes entendues et à l'arrivée un rapport de 120 pages qui alourdit encore l'affaire Benalla. La commission d'enquête du Sénat dénonce donc les défaillances de l'État dans ses conclusions présentées ce midi et elle estime que l'ancien chargé de mission de l'Élysée doit être poursuivi pour parjure. Pour le président de la commission, Philippe Bas, il s'agit bien d'une affaire d'État.
Nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés. Cela fait tout de même beaucoup.
Et Philippe Bas ajoute que le point de départ de l'affaire, le couple de la contre-escarpe, violenté le 1er mai, est réduit au second rôle. Tellement tout ce qui s'est passé depuis est plus grave. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Le rapport du Sénat est d'abord accablant pour l'Élysée.
Oui, car au-delà des mensonges d'Alexandre Benalla, c'est tout un système, toute une chaîne de responsabilité qui est dénoncée par la commission d'enquête. Jean-Pierre Sueur, l'un des co-rapporteurs.
En raison de la protection prêtée à M. Benalla, tout se passe comme si toute une série de gens dysfonctionnés, comme s'il y avait des métastases, comme s'il y avait une chaîne de dysfonctionnements qui s'entraînent les uns les autres.
Des dysfonctionnements listés par l'autre co-rapporteur, Muriel Jourda, pouvoir excessif accordé à un collaborateur inexpérimenté, confiance maintenue malgré les graves dérapages, dissimulation de faits à la justice, sanctions trop légères, manque de précautions quant au conflit d'intérêts, ça c'est pour le contrat russe, et puis bien sûr, manquement sur le retrait du téléphone Théorème ou des passeports diplomatiques.
La commission fait aussi une liste de recommandations à l'Élysée pour éviter d'autres dysfonctionnements à l'avenir.
Avec notamment cette préconisation de Muriel Jourda, davantage de vigilance dans le recrutement.
Il faut être beaucoup plus vigilant, puisque si on avait recherché quelques antécédents de M. Benalla, on aurait trouvé des traces de son passage au ministère du redressement productif. C'est un passage qui n'avait pas laissé de bonnes traces. Ça, c'est un premier élément, des déclarations qui doivent être mieux faites auprès des autorités, de façon à ce qu'on puisse surveiller les conflits d'intérêts. Et puis aussi, nous avons fait des propositions pour renforcer les pouvoirs du Parlement, pouvoirs de contrôle que nous avons exercés par cette mission.
13 propositions en tout qui seront donc transmises à l'Élysée et à Matignon. Le rapport, lui, est désormais public, à la portée de tous les Français et de la justice.
Et la commission demande dans un courrier au président du Sénat, Gérard Larcher, merci Élodie Forêt, de saisir le ministère public pour d'éventuelles poursuites pour faux témoignages. Elle demande aussi que le parquet soit saisi pour les omissions et les contradictions des trois collaborateurs de l'Élysée qu'elle a auditionnés. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Sont visés là Patrick Strauda, Alexis Kohler et Lionel Lavergne.
Oui, en l'occurrence, le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet et le chef du groupe de sécurité de la présidence. Et pour savoir ce qui est précisément reproché à la garde rapprochée du chef de l'État, il faut examiner 7 pages dans les annexes du rapport des sénateurs qui montrent à quel point ils estiment qu'il y a eu mensonge sur le périmètre exact des missions qui étaient confiées à Alexandre Benalla, alors que les trois hauts fonctionnaires ont tous répété au mot près qu'Alexandre Benalla n'était que chargé de vérifier et coordonner les dates et horaires des déplacements du chef de l'État avec les services concernés. Les parlementaires multiplient les témoignages, les documents et les vidéos qui prouvent, selon eux, que l'ex-chargé de mission était bien plus que ça, à commencer par le plus proche des gardes du corps du chef de l'État. Son épaule, comme l'a rappelé devant la commission démission le président de l'une des deux principales fédérations de sécurité privée, Jean-Pierre Diot, de sources policières. On renvoie également aux images du Touquet du 17 juin 2017 qui montre une position d'Alexandre Benalla qui ne fait aucun doute sur le choix du chef de l'État de l'avoir juste à côté de lui pour sa protection rapprochée.
Et quelques heures après le rapport de la commission du Sénat, on apprenait que le parquet avait ouvert une enquête vendredi dernier, enquête pour dissimulation de preuves. Elle concernerait notamment la disparition du coffre-fort dans lequel Alexandre Benalla stockait ses armes chez lui et les enregistrements de conversations avec Vincent Crase révélés par Mediapart. Du côté des réactions, l'opposition LR, PS, Insoumis salue sans surprise le travail de la commission d'enquête. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, énonce lui beaucoup de contre-vérités dans le rapport, sans dire lesquelles. Et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, estime qu'on est là pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs. Les députés marcheurs sont sur la même ligne. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Vous êtes à l'Assemblée, Karine. Pour eux, le Sénat n'est pas dans son rôle.
Oui, le Sénat qui ne respecterait pas la séparation des pouvoirs, je peux vous assurer que c'est l'argument clé repris cet après-midi par absolument tous les membres de la majorité. D'abord parce qu'avec ce rapport, les sénateurs se seraient faufilés en quelque sorte dans l'organisation des Élysées, et puis surtout pour le député Florian Bachelier, parce qu'il y a désormais une procédure judiciaire qui est en cours.
J'ai entendu les exultations de sénateurs Les Républicains depuis hier soir commenter des actes de procédure concernant Monsieur Benalla, et je crois que ça n'est pas ni le lieu ni la place des sénateurs, des parlementaires, de faire justice.
Mais pire, ce qui agite, ce qui agace particulièrement les députés de La République En Marche, c'est le discrédit qu'aurait jeté le Sénat sur trois des plus proches collaborateurs donc du président, en les montrant du doigt. Pour Romain Gros, qui est aujourd'hui député des Pyrénées-Orientales et qui est lui-même énarque de la même promotion qu'Emmanuel Macron, cette attaque-là ne passe pas.
Ce qui me gêne davantage, c'est la mise en cause et la mise sur la sellette de trois hauts fonctionnaires nommément, précisément, expressément, au détriment de leur vie, de la présomption d'innocence. Vous savez, ces trois hauts fonctionnaires, ils ont des familles également.
Donc vous dites rapport politique ?
Politique, polémique, sectaire. La droite veut faire de cette affaire Benalla son feuilleton. C'est leur feuilleton, ça n'est pas le nôtre.
Le Sénat se serait donc érigé en tribunal politique. En réalité, depuis juillet dernier, pour les députés de la majorité, ce rapport aujourd'hui n'en est qu'une preuve de plus. Aucun d'entre eux n'en avait jusqu'ici douté.
Karine Bécard en direct de l'Assemblée, merci. Et puis autre temps, autre président et autre affaire de Benalla à Big Malion, les fausses factures destinées à cacher les dérapages financiers de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. L'ancien président conteste son renvoi en correctionnel et saisit le Conseil constitutionnel. Pour ses avocats, il ne peut pas y avoir de procès parce qu'il a déjà été condamné en 2013 pour dépassement du plafond des dépenses électorales.
C'était l'ultime réunion, mais elle n'a rien donné.
Les négociations sur la réforme de l'assurance chômage sont un échec. Patronat et syndicats n'ont pas réussi à s'entendre après 3 mois et demi de discussions, notamment sur la mise en place d'un bonus-malus pour pénaliser le recours à trop de CDD. Le gouvernement va donc reprendre le dossier en main, d'où l'amertume du négociateur de la CGT, Denis Gravouille, ici au micro de Sarah Lemoine.
Le MEDEF nous a présenté un nouveau texte, c'était indigent. Il y a juste un nouvel article pour dire on va donner 5 euros au CDD. 5 euros. Un petit truc pour financer un fonds de formation, donc c'est vraiment se moquer de nous. Donc on a tous décidé que du côté des syndicats salariés que nous ne rentrerions pas dans ce jeu-là et que nous arrêtions les négociations, parce que ça fait à peu près 8 semaines que le patronat nous promène en ne lâchant absolument aucune mesure de lutte contre la précarité. Ils sont accros à la précarité, donc en ce qui concerne la CGT, on a dénoncé le fait qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui essayent de lutter contre la précarité et ceux qui s'en accommodent avec quelques pansements. Donc, il n'était pas possible de continuer à négocier. La balle est dans le camp du gouvernement. Mais en ce qui concerne la CGT, nous allons continuer à défendre les demandeurs d'emploi au régime général ou bien sûr les intermittents du spectacle qui demandent l'application de l'accord du 21 janvier.
Et à l'instant, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, regrette vivement cet échec de la négociation. Elle assure que le gouvernement prendra ses responsabilités. 500 personnes et des copeaux de papier dans les rues du Mans pour défendre les deux usines du papetier Arjo-Wiggins dans la Sarthe et les 900 postes menacés par le redressement judiciaire. Des salariés et des élus participaient au défilé.
Il est 19h, presque 10, c'est la plus grande banque suisse.
Elle est accusée d'avoir aidé pendant 8 ans des milliers de contribuables français à échapper au fisc. Et elle écope de la plus lourde peine jamais infligée en France dans une affaire d'évasion fiscale. UBS est condamnée à payer 3,7 milliards d'euros d'amende, Sarah Guibaudot, plus 800 millions de dommages et intérêts à l'État français.
C'est une victoire éclatante pour le parquet national financier. Les avocats du BS annoncent qu'ils vont faire appel. L'avocat de l'État français, Xavier Normand Baudard, se félicite de ce jugement.
C'est clairement une décision qui va marquer l'histoire des poursuites en matière de fraude fiscale. Le tribunal a répété à plusieurs reprises que les fautes qui avaient été commises étaient d'une exceptionnelle gravité.
La banque suisse est reconnue coupable d'avoir démarché sur le territoire français. Pour ne pas se faire prendre, les commerciaux utilisaient des méthodes dignes de James Bond, rappelle le jugement. Et pour dissimuler leurs avoirs, UBS proposait à des clients peu scrupuleux des comptes numérotés ou des sociétés écrans aux îles Caïmans. Nicolas Forissier est l'ancien responsable de l'audit interne d'UBS France. Le jugement reconnaît son rôle de lanceur d'alerte.
Le jugement reconnaît que les carnets du lait ont bien existé. C'était la mise en place d'un système de comptabilité parallèle des évadés fiscaux. La France et sa justice prévient des gens qui seraient tentés de continuer ce genre d'activité que ça pourrait leur coûter fort cher.
Pour le tribunal correctionnel de Paris, UBS a porté atteinte aux prérogatives régaliennes de l'État français. La banque répond ce soir que le jugement porte atteinte à la souveraineté du droit suisse.
Et 5 anciens cadres et dirigeants sont condamnés à des peines qui vont jusqu'à 1 an de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende. On le voit devant sur les images, insulté Alain Finkielkraut samedi dernier à Paris, cheveux et barbe rousse, keffiyeh autour du cou. Un homme de 36 ans, père de 5 enfants, est en garde à vue depuis hier soir à Mulhouse, entendu par les enquêteurs qui l'ont convoqué. Et pendant ce temps, une nouvelle profanation de cimetière, cette fois dans le village de Champagne au Mont-d'Or, c'est à l'ouest de Lyon, et Christophe Vincent est allé sur place.
Au fond du cimetière communal, blotti entre l'autoroute A6 et des tours de 13 étages, se trouve le jardin du souvenir. C'est ici qu'une promeneuse a découvert la profanation des croix gammées rouges dessinées à l'envers sur la stèle et cette phrase taguée sur le chemin d'accès en langage SMS « Parce qu'on n'a pas le choix », choix écrit comme la Shoah. Cet après-midi, le préfet délégué à la sécurité, David Clavière, s'est rendu sur place.
C'est un sentiment de dégoût, une condamnation extrêmement ferme de ces actes insupportables, imbéciles. J'ai eu la communauté juive au téléphone, ses représentants, et je leur ai exprimé au nom de l'État tout notre soutien, toute notre sympathie et leur dire notre condamnation la plus ferme de ces actes qui feront l'objet chaque fois de répression la plus ferme.
Dans la même rue, le cimetière israélite a été épargné. Jean-Claude Mesquida en vient, ses proches y sont enterrés.
Qu'il y ait une profanation dans le cimetière israélique ou dans le cimetière catholique, c'est tout aussi abject. C'est ni les juifs ni les catholiques qu'on attaque, c'est la France, les valeurs de la République. Ça continue et je pense que la réponse pénale n'est pas assez forte, manifestement.
Les tags ont été effacés. Le cimetière profané a fermé à 17h30, comme d'habitude. À Champagne au Mont-d'Or, Christophe Vincent, France Inter.
Quand Marlène Schiappa voit une convergence entre la Manif pour tous et les terroristes islamistes, pas de mise sur le même plan, dit-elle, mais la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, mais une convergence idéologique, entretient à Valeurs Actuelles qui paraît demain. La mère de Fiona va sortir de prison. La Cour de cassation annule sa condamnation à 20 ans de prison pour les coups mortels sur sa fille en 2013. Et elle ordonne à la Cour de cassation un nouveau procès.
Une dizaine de camions quittent le village de Baghouz en Syrie.
Dernier endroit tenu par le groupe État islamique. À leur bord, femmes, hommes et enfants. Les forces kurdes doivent les interroger pour identifier d'éventuels djihadistes. Vladimir Poutine montre ses muscles dans son discours annuel devant le Parlement. En réponse à la sortie des États-Unis du traité de 87 sur les forces nucléaires intermédiaires, hier. Moscou répliquera, prévient le président russe, si Washington déploie des missiles nucléaires en Europe.
Si ces missiles sont faits et déployés sur le continent européen, et les États-Unis ont de tels plans, cela constitue une très sérieuse menace pour nous. Dans ces conditions, nous serons forcés, et j'insiste sur le mot forcé, de prendre des mesures réciproques. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous le dis déjà aujourd'hui directement et en toute transparence pour que personne ne nous accuse d'exagérer, pour que ce soit clair pour tous ceux avec qui nous parlons. La Russie sera forcée de développer et de déployer des armes qui pourront ne pas être utilisées seulement contre les territoires qui nous menacent directement, mais aussi contre les territoires où sont situés les centres de décision concernant ces armes qui nous menacent directement.
По применению угрожающих нам ракетных комплексов. Vladimir Poutine au micro de Pierre Ludwig. Il sort demain dans 20 pays en 8 langues. Le livre Sodoma de Frédéric Martel, notre confrère de France Culture, sur l'homosexualité au Vatican. Ce livre, 4 ans d'enquête, 1500 personnes rencontrées, dont des dizaines de cardinaux. Et une sortie le jour du début du sommet convoqué par le pape sur les abus dans l'église, Mathilde Imberti.
Le télescopage entre la sortie du livre et le début du sommet au Vatican assure naturellement aux journalistes français une ample couverture médiatique. Il figure en France au premier rang des préventes sur le site Amazon, 6e rang en Italie, 20e aux États-Unis selon son service de presse, Frédéric Martel.
Sans doute, je suis surpris par ce succès, la une de dizaines et de dizaines de journaux à travers le monde. Mais je pense que dire la vérité, expliquer en empathie pour ces prêtres gays qui vivent très mal leur homosexualité, en empathie aussi pour ce pape François, qui est attaqué par une opposition très homophobe et dont certains de ses opposants mènent en réalité des doubles vies. Eh bien, cette hypocrisie méritait, me semble-t-il, et c'est ça la raison de ce livre, d'être révélée.
La grille de lecture que propose Sodoma rejoint l'actualité de la lutte contre les abus. Frédéric Martel soutient que l'homosexualité est ultra diffusée au Vatican et explique en partie la culture du secret qui prévaudrait dans l'église.
La clé, elle est avec la couverture. On protège un prêtre qui a abusé de garçons parce qu'on est soi-même homosexuel, très souvent. Et l'évêque qui le protège, il le protège parce qu'il a peur et que son homosexualité risque d'être révélée. Ça, c'est une clé.
Du côté du Vatican, pas de commentaire officiel sur cet ouvrage polémique. On prépare consciencieusement le sommet qui s'ouvre demain. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Il est déjà parti des Pays-Bas, d'Espagne, de Grande-Bretagne, de Monaco. Le Tour de France 2021 s'élancera de Copenhague au Danemark. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Et au programme, 3 étapes en terre danoise.
Avec un départ le vendredi, 13 km dans les rues de Copenhague. Le premier jour en contre-la-montre, 190 le lendemain de Roskilde à Nyborg avec un passage de 18 km sur deux ponts jetés au-dessus de la mer Baltique et un ultime rendez-vous de 170 km des fjords de Vejle à Sonderborg, plus au sud près de la frontière allemande, avant une journée de repos pour permettre un retour sur le territoire français, d'où ce départ le vendredi 2 juillet. Le théâtre de ce 24e grand départ à l'étranger s'annonce somptueux et si les sprinteurs devraient être à la fête, le vent attendu pourrait venir pimenter les premiers débats devant une foule enthousiaste. 15 ans se sont écoulés entre la première approche d'Herning et l'accord ferme entre le Danemark et les organisateurs du Tour. Avec ces deux dernières années, un lobbying intense du Premier ministre danois, du maire de Copenhague, avec à l'appui le président de la République, Emmanuel Macron, venu en visite officielle en août dernier avec un maillot jaune en cadeau. Le Danemark sera le départ le plus septentrional du Tour, un choix qui vient récompenser un public fan de vélo. On prendra le soin d'oublier les dérives de Bjarne Riis, vainqueur dopé en 96, ou de Rasmussen, éjecté en 2017, pour souligner qu'un téléspectateur danois sur deux regarde chaque été le Tour à la télé. 9 Danois sur 10 possèdent un vélo. Un enfant sur deux utilise ce vélo pour aller à l'école. De quoi promettre un succès populaire à l'image des championnats du monde 2011 organisés à Copenhague.
Et pour le Tour 2019, le départ est à Bruxelles au mois de juillet. Merci Fabrice Rigobert. Jusqu'ici, seuls les Beatles avaient réalisé une telle performance. La chanteuse Ariana Grande a donc 3 de ses chansons aux 3 premières places du hit parade américain. Ariana Grande, si vous avez des ados, vous la connaissez. C'est aussi elle qui était sur scène le soir de l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts il y a 2 ans. Eh bien aujourd'hui, elle règne sur le showbiz aux États-Unis. À part les Beatles, donc aucun artiste n'avait réussi à truster ainsi le podium du Billboard depuis sa création, Gregory Philips, en 1955.
Ariana Grande est considérée par le magazine Time comme l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde. Et à 25 ans, la pop star entre donc aujourd'hui dans l'histoire de l'industrie musicale en classant 3 de ses titres aux 3 premières places du Billboard américain. Celui-ci, 7 Rings. Break Up With Your Girlfriend. Et Thank You Next. Le 5e album d'Ariana Grande avait aussi battu tous les records avec une semaine après sa sortie, plus de 300 millions d'écoutes sur les plateformes musicales. La jeune chanteuse, originaire de Floride, était hier soir l'invitée du Late Show de James Corden sur CBS qui lui présente un gâteau avec 3 bougies pour ses 3 premières places au classement Billboard. Congratulations, Kay. Je trouve ça drôle en fait, dit Grande. Quand j'ai vu ce classement au réveil, j'ai cru que c'était une blague, un montage réalisé par des fans. Et puis non, alors avec ma mère, on a écouté les Beatles toute la journée, c'est dingue. En vérité, les quatre de Liverpool avaient même fait plus fort que la pop star adulée notamment par les adolescentes, car le 4 avril 1964, les Beatles avaient classé 5 titres aux 5 premières places du hit parade américain. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Much for money.
Alors Beatles plutôt. Hein.
Bah plutôt. Enfin, en tout cas, c'est terrible, vous me parlez de la planète Mars.
Eh oui, un petit peu, mais bon. Elle est très connue. Hein. 300 millions de vues en une semaine.
Visiblement.
J'ai l'impression qu'elle est connue.
Visiblement, je crois comprendre aussi. Mariana, comment vous dites?
Grande, la petite grande.
Allez, Sébastien, à demain.
À demain.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Jean-Pierre Rameau, ciel bleu, température printanière, une belle fin de semaine décidément.
Effectivement, les hautes pressions se sont vite reconstituées et c'est une véritable patate anticyclonique qui s'installe sur toute l'Europe occidentale en protégeant durablement notre pays. Cette nuit, les belles éclaircies vont par effet de rayonnement favoriser le développement de grisailles et de brouillard en fin de nuit, en particulier dans la moitié nord du pays ainsi que dans le sud-ouest. La dissipation de tous ces phénomènes de basse-couche se fera en cours de matinée et le soleil va s'imposer avant la mi-journée au-dessus de l'Hexagone.
Un mot sur les températures, Jean-Pierre.
Eh bien, avec une masse d'air en provenance de la péninsule ibérique, les températures vont continuer de grimper. Prévoyez 13 à 18 degrés dans la moitié nord, 15 à 17 dans le sud-est et 17 à 21 dans le sud-ouest. Et la barre des 20 degrés sera souvent dépassée d'ici ce week-end et certains records mensuels seront très certainement battus.
Jean-Pierre Rameau de Météo France, merci beaucoup.